Voilà, bonsoir à tous. Et ce soir, nous continuons dans l'étude d'eschatologie, les choses dans les derniers temps. Et la semaine passée, nous avons regardé l'interprétation de la parole pour nous aider à savoir comment interpréter la Bible et surtout les textes qui concernent les choses à l'avenir. Et ce soir, nous allons commencer à regarder les choses du fin du temps qui se trouvent même dans l'Ancien Testament. Et ce soir, je vais faire un survol des choses du fin du temps. Et après, on va regarder l'arrière-plan, programme de Daniel. Et on va voir ce que Daniel nous montre même concernant les choses qui sont à l'avenir pour nous. Et après, je crois que ce sera bien aussi de faire un survol des prophètes dans l'Ancien Testament pour voir ce que la Bible parle de l'avenir. Il y a plusieurs textes dans les prophètes concernant le Messie, mais il y a plusieurs textes concernant son royaume. Et on sait que dans le plan de Dieu, Jésus-Christ reviendra sur la terre. Et les prophètes parlent beaucoup de cela. Et je crois que c'est ça ce qu'on va regarder même la semaine prochaine après avoir terminé ce livre de Daniel. Je ne sais pas si on peut terminer ce soir ce que j'ai voulu, mais on va voir. Voilà un survol des événements qui seront à l'avenir et qui sont déjà déroulés. Et j'aimerais juste nous situer. Quand vous voyez la croix ici, c'est bien sûr, c'est Jésus-Christ. J'ai mis 33, ça c'est l'année où à peu près il est mort. Juste après, on voit qu'il est ascendu, il est allé au ciel et 40 jours, 50 jours après, le Saint-Esprit est venu pour le commencement de ce temps de l'Église. Et c'est ça, nous vivons dans ce temps de l'Église. Et ça va durer. Nous allons parler de cela plus tard. On parle aussi des temps des nations, un temps où Dieu traite maintenant avec tous les peuples de Dieu, soit juifs ou soit ceux qui ne sont pas juifs, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ça le temps que nous avons, nous sommes dans maintenant, dans ce temps de l'Église. Le temps de l'Église va continuer jusqu'au retour de Christ. Le retour de Christ. Le retour de Christ signale la fin du temps de l'Église et le commencement de son millénium. Mais avant le millénium, avant ce règne de 1000 ans, il y aura une grande tribulation. Il y a toute une discussion. Est-ce que les chrétiens seront partis de cette grande tribulation? Et voilà, c'est une tribulation qui durera 7 années. Au milieu de cette grande tribulation apparaissent l'Antichrist, selon les textes. On va voir même l'Antichrist ce soir dans le livre de Daniel. À la fin de cette période de grande tribulation, il y aura une bataille d'Armageddon, une grande bataille. Toutes les forces armées seront en train d'encercler Jérusalem et même vouloir détruire. Mais Jésus-Christ viendra à ce moment pour terminer cette bataille et pour commencer le millénium. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui disent que les chrétiens ne passeront pas ce temps de grande tribulation, mais ils seront sauvés dehors de cela. Ils ne vont pas subir la colère à venir, selon 1 Thessalonicien. Et ce même texte dans 1 Thessalonicien, chapitre 4, parle de ce retour de Christ dans l'air. Et c'est ça, moi je crois que nous n'allons passer par la grande tribulation, mais Dieu va nous enlever. Ça parle de l'enlèvement de l'Église et ça peut arriver à n'importe quel moment. Même ce soir, on peut entendre la trompette, la voix d'un ange et dans un clin d'œil, on sera avec le Seigneur. Et voilà. Mais pendant le temps que tous les chrétiens sont enlevés, il y aura maintenant, ça commence 7 années de grande tribulation. Et la plupart des livres d'Apocalypse parlent de ce temps de la grande tribulation. Pendant que nous sommes au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, ça commence avec un siège Béma de Christ. les chrétiens seront jugés, pas pour le salut, mais pour les récompenses. Ça, c'est toute une autre étude qu'on va même regarder dans l'avenir. Mais à la fin de cette année, Jésus-Christ reviendra, il retourne sur la terre, et maintenant, il est avec les saints glorifiés, même ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, et ils viendront régner ici sur la terre pendant 1000 ans. Voilà, ça c'est un aperçu des choses qui viendront à l'avenir, et c'est le système, on peut dire, prémillénial, pré-tribulationnel. Pré-tribulationnel, parce que j'ai dit que le retour de Christ, c'est avant la tribulation. Et prémillénial, c'est-à-dire Jésus-Christ viendra avant le millénium. Et voilà un aperçu des événements. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas même de m'envoyer un mail ou de m'appeler et de me dire que voilà, je ne comprends pas quelque chose ici. J'avais mis le mot 444 ici, l'année 444, on va parler de ça plus tard quand nous regardons cette prophétie de Daniel dans Daniel 9 concernant les 70 semaines. Mais pour le moment, revenons à Daniel parce que Daniel a beaucoup de choses à dire concernant les choses qui viendront à l'avenir. J'aimerais juste commencer avec une image ici. Peut-être vous avez vu cette image avant. C'est une grotte à Qumran. C'est grotte numéro 4. Et dedans, ils ont trouvé certaines copies de ce livre de Daniel. Et cette date, c'était environ 150 années avant Jésus-Christ. Deuxième siècle alors, avant Jésus-Christ. Jusqu'au premier siècle avant Jésus-Christ, ce livre de Daniel a été trouvé, plusieurs manuscrits. Et c'est-à-dire que c'était une composition très ancienne. Et c'est important à savoir cela parce que quand on arrive à Daniel, Daniel parle très clairement concernant les événements qui sont futurs de lui. Et les libéraux, les gens qui ne croient pas que la Bible est inspirée de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de dire que, oh, Daniel, il était écrit après ces événements, et voilà, c'est pourquoi il était si précis concernant les prophéties. Mais ici, on voit que déjà, 150 avant Jésus-Christ, existaient des manuscrits qui étaient très anciens. Alors, ça indique que le livre de Daniel existait depuis longtemps. Une autre image, j'aimerais juste partager avec vous, et je sais que c'est un peu difficile peut-être à regarder tout ce qui est ici, mais c'est juste un aperçu du chronologie de Ésaïe, on peut dire, mais même de Daniel, et je vais dire pourquoi. Regarde si vous voyez en haut, ça commence même avec la création, la chute, Abraham, Isaac, Jacob. Et nous voyons qu'avec Joseph, les enfants d'Israël sont allés en Égypte. Voilà le temps de Joseph en esclavage en Égypte. Et 400 années, voilà les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, d'Israël, sont en Égypte. Et c'est dans les années 1400, pense à cette année 1445, nous voyons l'Exode. Moïse est appelé pour amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Et après, ils sont bien arrivés dans ce pays de Canaan et nous voyons que Dieu a dû les châtier. Ils ont 40 années, ils ont fait le pèlerinage dans le désert. Mais après, finalement, ils sont arrivés et nous voyons leur conquête avec Josué. Josué est arrivé et les pays qui entouraient, les gens qui adoraient des autres idoles, nous voyons les conquêtes dans le livre de Josué. Juges, c'est les périodes où on a les hauts et les bas. Les gens cherchaient Dieu et les gens ne cherchaient pas Dieu, mais Dieu toujours a voulu susciter les juges pour les sauver. Et on voit les gens comme Gédéon, comme Samson, et comme les autres, plusieurs juges pendant cette époque. Après cela, on voit que Dieu a suscité un prophète par le nom de Samuel, et Samuel a oint le premier roi qui était Saul, et après on voit David, et après David on voit Salomon. Et c'était à ce moment, dans cette image, que vous voyez que le royaume d'Israël est divisé en deux, dans un royaume du sud et dans un royaume du nord. Et c'est là où nous avons plusieurs différents rois qui régneront pendant ce royaume du sud, et le royaume du nord, encore plusieurs rois qui vont régner. La plupart des rois dans le royaume du nord, c'est-à-dire dans la partie d'Israël du nord, à partir de Samarie et en haut, étaient des rois qui étaient pas bien. Ils n'ont pas fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Et ce qui s'est passé, Dieu a suscité, et j'ai mis à côté ici, cet empire assyrien. Les Assyriens, Dieu les a suscités pour juger le peuple du royaume du nord et du sud. Il y avait plusieurs guerres entre les deux, mais finalement, le royaume du sud est tombé et les Assyriens les ont pris en captivité. Et ils sont vaincus et ils sont allés en captivité. Mais le royaume du sud, ça continue. Et nous voyons que même, ils ont essayé de faire les alliances avec Assyrie, ils ont demandé aux Égyptiens de venir les aider, mais Dieu était toujours en train de les aider. Mais au moment ici, nous voyons une apostasie en Israël. Et Dieu a envoyé les prophètes pour dire que non, écoute, si vous continuez dans cette... il a utilisé le mot fort, je peux dire prostitution. Il a dit une prostitution spirituelle. Vous cherchez les autres dieux. Il y a des rivales qui sont de moi. Il a dit, moi, je suis un dieu jaloux. Je n'accepte pas que mon peuple prenne les autres dieux. Et il a envoyé les prophètes en disant que, écoute, si vous ne retournez pas, le jugement arrive. Et même, il va dire à travers Ésaïe que ce sera Babylone qui viendra. Et même pas seulement Babylone, Ésaïe va même prophétiser d'un autre royaume après Babylone, qui est cet empire perse avec Cyrus. Mais tout ça pour dire qu'il y avait plusieurs temps où cet empire assyrien se sont entrés pour causer des grands problèmes au royaume du sud. Mais cet empire assyrien ne va pas rester longtemps. Il y aura un autre empire, empire babylonien, qui va prendre le dessus. Il y a une grande guerre qui avait eu lieu où Babylone, enfin, a pris le dessus. Et cet empire Babylone s'était pris le dessus de tout. Même Égypte n'était plus un pouvoir important après que Babylone est venu. Oui, Égypte sera dans l'avenir, mais l'empire babylonien va régner. Et voilà, Babylone vient finalement, les royaumes du sud est vaincu, et Dieu a voulu cela, il a voulu les juger. Maintes fois, il est venu vers les prophètes, les gens n'ont pas se repentir et les gens sont amenés en captivité. Il y avait eu trois déportations, trois fois où Babylone est venu, ils ont pris les gens avec lui. Et la première déportation, c'était Daniel qui est allé avec les captifs en Babylone. Plus tard, il y aura un roi juif qui soulèvera contre Babylone. Et encore, les rois viennent et ils vont encore amener une deuxième déportation et même une troisième déportation. Le deuxième, Ézéchiel, est allé en captivité et les autres dans le troisième. Et c'est là où on arrive à cette époque ici, que Jérusalem est vaincu par Nebuchadnezzar, il a brûlé complètement les murs et les gens sont allés en captivité. Et c'est là où on commence le livre de Daniel. Babylone va continuer, le grand roi Nebuchadnezzar est central, et après Nebuchadnezzar va même tomber, et un autre roi soulèvera Belshazzar, et après Belshazzar, on voit que l'empire Médo-Perse va avoir le pouvoir, et éventuellement les Perses vont avoir. Et sur Cyrus, les gens vont commencer à retourner. Jérémie a prophétisé 70 années captivité en Babylone. Alors, au 70e année, on voit cet édict, cet décret de Cyrus que les gens pouvaient rentrer. Il y avait trois retours, un sous Zerubbabel, un sous Esdras et un sous Néhémie. Et c'est là où ils ont recommencé de bâtir les murs, de rebâtir le temple. Et dans cette époque, ils seront toujours sous les, on peut dire, sous le pouvoir, sous la puissance des autres royaumes, jusqu'au temps même de Jésus-Christ. Il y avait une période de 150 années où ils avaient quand même une certaine liberté. Ils ont pu vaincre les forces qui étaient là, mais après, ce seront les Romains qui vont dominer dans cette époque jusqu'au temps de Christ. C'est pourquoi on a cette influence romaine pendant cette époque. L'influence grecque, on va voir ça aujourd'hui, d'où vient cela. Et on va voir que Daniel a même prophétisé cela avec la prophétie concernant Alexandre le Grand. Mais voilà un peu la chronologie du temps. Je sais que c'est beaucoup, peut-être ce sera bien de revenir et voir ce tableau et de même réécouter encore cette partie du message. C'est important à saisir cette histoire d'Israël. Il y a même, j'aimerais juste, peut-être je vais sauter à une autre. Voici. J'avais trouvé ça sur l'Internet, c'était très intéressant, c'était en anglais, mais ce que je vais faire, je vais juste avancer ceci, vous n'allez pas voir, ça parle de l'histoire des Juifs, et ici on voit en rouge ce royaume d'Assyrie, et la date en haut, 746, ça vous aide un peu à savoir ce qui se passera, parce qu'on est en train d'arriver au point où Assyrie viendra. Ils vont dominer, ils vont prendre le royaume du Nord en captivité. En bleu, en bas, vous voyez Égypte. Et éventuellement, Assyrie a pris le dessus. Ils étaient dans le pouvoir, ils ont venu, et la capitale, Samarie, alors tombe entre les mains des Assyriens. Ils ont amené en captivité. Mais le parti du Sud, Juda, toujours continué. Alors, après ceci, nous voyons que Assyrie a eu une forte présence, mais au même moment, nous voyons que Babylone arrive. Et si je peux revenir un peu en arrière, nous voyons Égypte, après le, on voit cette ascendance maintenant de Babylone, et les deux vont arriver à une bataille. Les deux vont déterminer qui sera le pouvoir qui va être en dessous de tous les autres. Et c'était à cette époque qu'on a un roi même d'Israël qui est venu. Il a voulu empêcher les Égyptiens d'aller, mais Dieu n'a pas voulu. Et nous voyons que la Babylone à l'Orient, ils prennent le dessus. Même Égypte seront vaincu, et nous voyons cet pouvoir de Babylone qui est en contrôle, et même les Israélites sont pris en captivité. Et voilà, leur royaume de Nebuchadnezzar était très grand, mais nous voyons que il y avait une autre qui est arrivée après Babylone, et nous voyons que l'Empire Perse est arrivé en rouge maintenant. Et l'Empire Perse a eu le contrôle sur tout le territoire. Et cet Empire Perse, et nous sommes dans les années maintenant de 333 avant Jésus-Christ, et nous voyons à côté gauche un autre royaume qui arrive. Et voilà, comme je disais, Alexandre le Grand, c'est lui qui est venu et c'est lui qui, dans peu de temps, a pu conquérir tout le monde. Et c'est pourquoi on a cette influence grecque qui est là. C'est Alexandre qui a amené tout cela dans le territoire. Et après une courte vie, il est mort. Et son royaume était divisé entre ses généraux. On va voir ça dans Daniel aussi. Et les deux, quatre généraux, mais les deux qui ont pris le dessus dans le territoire d'Israël, c'était les Ptolémées et les Séleucides. Et voilà, ça c'est un aperçu de cette histoire d'Israël avant Jésus-Christ. Je fais ça encore. On voit au commencement Assyrie, les Assyriens prennent le dessus et éventuellement le royaume du nord, du sud et du nord premièrement et du sud sont tombés sur les Assyriens. Et après on voit Babyloniens, les Babyloniens même viennent et ils prennent en captivité les Juifs. Et après les Babyloniens, nous voyons l'Empire Perse. Et cet Empire Perse, et après, est remplacé par cet Empire grec d'Alexandre le Grand. Et après, Alexandre s'est divisé en deux. Voilà un peu l'aperçu de cette histoire. Nous voyons l'importance de Daniel pendant cette époque. Je reviens un peu sur le... Nous voyons que ici, nous voyons une relève qui montre cet aspect de prendre les gens en captivité. Nous voyons que le livre de Daniel, ça couvre environ 70 années d'exil en Babylone des habitants de Juda. Et Nebuchadnezzar, comme je vous ai dit, il ordonna trois différentes déportations. Et le final, la déportation, c'était en 586 avant Christ, où nous voyons cette ville de Jérusalem qui est tombée. Et si vous voyez dans l'image, ce sont des gens, c'était une relève d'une palais assyrienne qui montre comment ils ont pris en captivité des gens qui étaient là. Ici, c'était la ville de Lachish. Ils ont été, Sennacherib est venu et pris les gens en captivité. Vous voyez, ceci c'est un peu étrange. C'est une image d'une foi qui était là. Je dis une foi, pourquoi? Dans l'époque de Daniel, les Babyloniens ont pris un grand intérêt dans la magie. Et ils ont cru que en regardant la foi de quelqu'un, vous pouvez deviner ce qui va arriver. Et on voit les sages, les enchanteurs, les révélateurs de mystères, tout ça sont mentionnés dans le livre de Daniel. Et bien sûr, Daniel ne fait aucune chose comme ça. Il connaît le Dieu, le vrai Dieu qui gouverne sur toutes choses. Pour un aperçu un peu de livre de Daniel, c'est là où on va de l'histoire, l'eschatologie dans Daniel. Il faut comprendre cette image que le roi Nebuchadnezzar lui-même a vu dans une vision, dans une rêve. Et ça se trouve dans Daniel chapitre 2. Si vous avez la Bible, vous pouvez regarder ça avec moi. Et l'histoire déroule autour du fait que Daniel était le seul qui a pu interpréter ce rêve. Et même l'auteur a pris beaucoup de temps pour montrer que le roi a fait un rêve. Il ne pouvait pas se souvenir de ce rêve, ce qu'il a dit. Et il a voulu que les magiciens qui devinent pas seulement le rêve, mais aussi l'interprétation du rêve. Et enfin, c'est incroyable, les gens disaient, les magiciens disaient, mais aucun roi n'a jamais demandé ça. Dites-nous le rêve et on va te dire la vision et l'interprétation. Et le roi était convaincu que non, si vous ne pouvez pas me dire le rêve et l'interprétation, vous serez mis à mort. Il a commencé même à mettre à mort les gens. On arrive à Daniel et Daniel a dit, mais attendez, je vais prier avec mes compagnons et on va donner, on va voir ce que Dieu va répondre. Et finalement, Dieu a répondu, il a montré ce rêve et il est allé en vite devant le roi. Et maintenant, il va dire même au roi ce qu'il a rêvé et même l'interprétation. Et devant vous, vous avez le texte 37 jusqu'à 45. Et il est en train d'expliquer ce rêve. Ce qui se passait, rêve était au sujet d'une grande statue. Et voilà, on va dire, verset 37, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. » Et il t'a fait dominer sur eux. Alors Daniel est en train de dire, écoute, Nebuchadnezzar, tu es au-dessus de toutes ces choses. Il a dit, c'est toi qui es la tête d'or. Vous vous souvenez, dans cette image qu'il a eue, il y avait eu une grande, grande image. Et il y avait quelqu'un avec une tête d'or. Et ici, Daniel est en train de dire, mais ça représente toi-même, tu es la tête d'or. Et il a dit, après toi, se lèvera un autre royaume moindre que le tien. Moindre, pourquoi? Parce que ce n'est plus en or, la valeur, mais c'est en argent. Et nous voyons que les bras et le torse de cet homme représentent les Mèdes et les Perses. Et c'est ça, exactement, après Babylone, c'est les Mèdes et les Perses qui ont été dans le pouvoir. Il a dit, puis un troisième jour, royaume qui sera des reines et qui dominera sur toute la terre. La reine, maintenant, c'est la Grèce. Et nous voyons que la reine est encore une valeur qui est moins importante. Et nous voyons même peut-être la puissance est plus grande. Avec chacun, nous voyons le métal qui est utilisé est plus dur, mais la valeur diminue. Et le quatrième royaume, fort comme du fer, voilà, le quatrième, ça représentait par deux jambes qui sont là avec du fer et de l'argile. Et on parle des 10 orteils aussi de cette grande image qui était là. Et c'est ça, le quatrième royaume. Maintenant, on voit ça comme rond, parce que nous voyons qu'après le royaume de Grèce avec Alexandre le Grand, c'était divisé en quatre, et après, c'est les Romains qui ont été venus. Et c'est ce quatrième royaume, il a dit, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts du pied étaient en partie de fer, partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre de même que le fer ne saille point avec l'argile. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Voilà une prophétie concernant exactement ce qui se passera avec cet royaume du Rome. Bien que fort, ils ont aussi des problèmes à l'interne à cause des alliances et des autres choses. Mais il a dit que dans le temps de ce roi, un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Dans l'image que Nebuchadnezzar a eue, il y avait eu cette grande pierre qui est tombée du ciel, qui a cassé les pieds et toute cette image qui était devant lui. Et maintenant, il est en train de dire et de parler de cette pierre. Il brisera et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qu'il a brisé le fer, la reine, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et il est en train de parler de cet royaume qui ne sera jamais détruit. Et pour nous, en tant que des croyantes, nous voyons ça comme le royaume de Dieu lui-même, ce royaume de Jésus-Christ qui ne sera pas détruit. Voilà cette image. Je sais que c'était un peu vite. Il y a plusieurs versets dans chapitre 2 jusqu'à 49 versets. Mais nous voyons à la fin qu'il y a une profession que Nebuchadnezzar a fait, qu'il a dit que voilà, ça c'est le Dieu. Je sais que c'est le vrai Dieu qui a prononcé ceci à travers son serviteur. Il a dit dans verset 46, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Et nous voyons qu'il a mis Daniel en tête de tout son royaume et il a mis aussi Shadrach, Meshach et Abednego, ses compagnons aussi, dans les positions très hautes. Qu'est-ce qu'on voit dans Daniel alors? On voit que dans chapitre 1, que les serviteurs de Dieu sont supérieurs à des autres. Dans chapitre 2, nous voyons que Dieu donne la capacité à connaître, à interpréter des rêves à l'avenir et particulièrement comment il va faire tomber les rois, même avant qu'ils n'arrivent. Ça indique que Dieu connaît l'avenir, il connaît exactement ce qui se passera. Et voilà, on vient de voir cette confession qu'il a compris que Dieu est le Dieu des dieux. Dans chapitre 3, quelque chose arrive. Son pouvoir de protéger ses serviteurs et de démontrer au roi et à tous les dirigeants qu'il est le Dieu qui délivre même du feu. Bien que dans chapitre 2, Nebuchadnezzar a fait une profession qu'il n'y a pas un autre Dieu, c'est comme il a dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il n'a pas tenu ferme à cela et dans quelques années, il va même construire toute une image. Comme Daniel a dit qu'il est la tête d'or, il a fait cette image d'une grande image de lui-même et il a demandé à tout le monde de venir se prosterner devant cette image. Bien sûr, Daniel, à cette époque, il n'était pas là. On sait peut-être qu'il était en voyage quelque part pour l'État, en train de faire d'autres choses, mais Shadrach, Meshach et Abednego étaient là. Ils n'ont pas voulu prosterner devant cela. Dieu les a protégés et encore, Nebuchadnezzar a eu ce témoignage qu'il y a un Dieu qui règne et qui délivre même du feu. Et dans chapitre 3, verset 28, il a dit ceci, 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Et il a dit, « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu du Shadrach, de Meshach et Abednego sera mis en pièces. » Et ça continue en disant que voilà, il était convaincu encore que ce Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était si puissant. Dans chapitre 4, nous voyons encore la grâce de Dieu envers Nebuchadnezzar. Et vous pouvez imaginer, pour le peuple de Dieu en train de lire ce que Dieu était en train de faire dans cette nation de Babylone, combien ça peut les encourager à savoir, oui, ils sont en captivité, mais Dieu est toujours en contrôle. Dieu est là et il domine sur toutes choses. Et dans chapitre 4, Dieu va encore démontrer la grâce envers Nebuchadnezzar. Et là, il va subir un grand temps de difficultés. Tout ça, c'était prophétisé et il va comprendre encore à la fin de chapitre 4 qu'il n'y a pas un Dieu sauf qui est Dieu lui-même. Voilà un aperçu des premiers quatre chapitres. Juste une image ici d'un obélisque. Le roi Nebuchadnezzar a fait une image d'or de 28 mètres par 3 mètres. Et des obélisques de cette hauteur ont été construits en Égypte. Et l'un des plus grands subsiste encore et visible près de Basilique à Rome, érigé à l'origine de Thoutmose. Il mesure 30 mètres de haut et sa base carrée mesure 3 mètres de large au fond. Et c'est juste pour vous dire que c'est pas étrange que Nebuchadnezzar pouvait faire une image si grande qui est mentionnée là. Voici devant vous aussi une tablette cunéiforme qui était excavée de Babylone et ça montre ce que Nebuchadnezzar a dit. Il était appelé même, Nebuchadnezzar était appelé le prince exalté, le favori du dieu Marduk, le bien-aimé du dieu Nabu. Et les Babyloniens adoraient toutes sortes de dieux, Marduk, Nabu, des autres qui étaient là. Et nous voyons que l'inscription dans nombre des temples indique que Nebuchadnezzar a été considéré en train d'adorer ces différents dieux. Et même nous voyons dans le détail du temple de Marduk, Nebuchadnezzar a dit ceci, « C'est pour ta gloire que j'ai fait une maison au Merodach exalté, que sa grandeur avance, que sa plénitude augmente. » Alors, plusieurs fois, il n'a pas reconnu la souveraineté de Dieu, mais il reconnaît Merodach ici. C'est juste un exemple que les cunéiformes, les tablettes, confirme cet roi Nebuchadnezzar et ses désirs pour les différents dieux. Mais nous venons de parler du chapitre 4 et voici un chapitre écrit par un roi païen. Vous pouvez lire ça peut-être après. Et c'est écrit en araméen et traduit pour nous, bien sûr, mais en araméen, il a écrit. Et il était en train d'avouer le seul vrai Dieu. Je crois que finalement, il a compris le Dieu de Dieu. Et Dieu a gracieusement accordé à Nebuchadnezzar cette connaissance de Dieu. Et voilà ce qui se passera. Et vous pouvez imaginer, voilà un homme, Nebuchadnezzar, on pense souvent, voilà ce grand roi, mais Dieu a pris soin même de lui. Et voilà une citation, même les personnalités publiques sont des hommes privés qui sont individuellement responsables devant Dieu. Il ne faut pas oublier les rois, prier pour eux, prier qu'ils puissent aussi connaître le Seigneur des Seigneurs. Et voici plusieurs versets où nous voyons que le roi Nebuchadnezzar a reconnu et il a avoué qu'il y a un seul Dieu qui est suprême au-dessus de tout. Alors, ça c'est l'image, cette grande statue d'or avec la tête d'or, en argent, la poitrine, les jambes, fer, argile avec rond. Et voici un peu l'histoire dans cette image qui est ici. On n'a pas le temps de regarder, mais c'est pour dire qu'il y a une manière d'aligner ce qui était dit dans Daniel avec l'histoire réelle qui se passait dans ce monde. Ce n'est pas une histoire inventée dans Daniel, mais ça suit exactement ce qui se passait. Et même pour donner un autre appui, Daniel, voilà, il va rester à Babylone jusqu'à ce qu'il soit conquis par Cyrus. Et devant vous, vous voyez cette tablette encore écrite en cunéiforme, qui c'est un cylindre de Cyrus qui est montré ici. Et les réformes de Cyrus comprenaient le retour des peuples captifs dans leur patrie et la restauration de leur temple. Et cette cunéiforme mentionne cela, que les captifs ont pu rentrer. Et nous voyons encore l'histoire en train de démontrer la réalité et les faits qui sont démontrés dans le livre de Daniel. Après chapitre 4, nous voyons cette section fameuse de Daniel avec les lions, encore pour montrer que Dieu est dans le pouvoir au-dessus de tout. Et ce passage est important parce que c'est juste avant une autre image, une autre vision qu'il va avoir. Et dans chapitre 7, nous allons voir que Daniel va avoir une bizarre vision. Et dans cette vision, il va voir un lion, un ours, un léopard avec quatre têtes et une grande bête féroce. Et encore, on arrive à l'eschatologie. Parce que Daniel est en train encore de démontrer ce qui se passera dans l'avenir. Et comme la tête d'or représentait Babylone, maintenant ce lion, c'est une lion avec les ailes, ça représente encore Babylone. Il y a un grand ours qui a une manière de marcher, mais pas sur les deux pas. Et ça indique encore cet empire de Perse et de Mède, et comme un va avoir le dessus sur l'autre éventuellement. Cet léopard avec les quatre têtes, nous voyons la vitesse avec laquelle Alexandre le Grand a pu conquérir le monde et après s'est divisé en quatre. Et on voit cette dernière bête, une grande bête féroce, avec les 10 cornes et une corne qui est sortie et les 3 cornes qui sortent. Voilà ce qu'on va regarder pour clôturer le temps avec vous ce soir. Et ça se trouve maintenant dans Daniel 7. Daniel 7 nous montre cette image qu'il a eue, cette vision qu'il a eue des 4 grands animaux. Je suis dans Daniel 7, verset 6 maintenant. Et je voulais juste mentionner cet léopard. Après cela, je regarde et voici une autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Et voilà, Alexandre avait 23 ans quand il devient roi de Grèce. Et il se mit en route pour détruire l'ancien ennemi de la Grèce, la Perse. Et la vitesse était comme un éclair. Les armées grecques battirent rapidement la Perse et d'abord à la bataille d'Issus en 333 avant Jésus-Christ et contre Darius le III. Et nous voyons que cette image de léopard avec les 4 têtes, il a vaincu les Phéniciens et jusqu'à même la ville antique de Ninive. Il a rencontré de nouveau Darius et il a vaincu à nouveau. Alexandre a continué vers l'est et jusque même dans la ville de Babylone, Alexandre fut proclamé lui-même Dieu. Il avait l'intention d'établir cela comme sa capitale, mais à l'âge de 33 ans, il avait entendu l'Empire grec de la Macédoine à l'Inde en vainquant les armées les plus puissantes du monde en 10 ans. Alors, il a fait tout ça dans 10 ans, mais il est mort subitement. Alexandre le Grand, après lui, s'est divisé, s'est divisé en 4. Et voici un peu les généraux qui ont pris contrôle de tous les différents territoires. Les différents 4 différents généraux ont fait cela. Tout cela prédit dans Daniel chapitre 7. Je vais juste mentionner ce 4e animal encore. Ça dit terrible, épouvantable, extérieurement, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, mangé, brisé, foulé aux pieds, ce qui restait. Il était différent de tous les animaux et il avait 10 cornes. Alors, cet animal représente l'animal de Rome toujours, mais maintenant, il donne les autres aspects de ce royaume du Rome. Et voilà. Cet animal qui est féroce et qui est grand quand même, il n'est pas tout puissant. Et c'est là, nous voyons dans Daniel 7, verset 9, « Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. » L'ancien des jours. Je crois qu'il faut mettre ça en majuscule parce que c'est lui qui domine sur toutes choses. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les chevaux de sa selle étaient comme de la laine pure. Son trône, voilà, son trône était comme des flammes de feu, les roues comme un feu ardent, un fleuve de feu coulait et sortit devant lui. Mille milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Voilà, nous sommes en train d'arriver au fin des temps. Et nous sommes en train de regarder ce qui se passera avec cette corne qui était là, cette petite corne qui est venue, qui a parlé des choses arrogantes et qui fut tuée. Et c'est là où nous voyons ce passage fameux de Daniel 7, 13, où je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers les anciens des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, les gloires, le règne. Tous les peuples et les nations et les hommes, toutes les langues le servirent. Sa domination était domination éternelle et qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Si vous vous souvenez des autres images déjà dans Daniel, cette pierre qui est tombée et qui a cassé, c'est même ici, nous voyons ce fils de l'homme qui est venu pour régner pour toujours. Et c'est Jésus qui a utilisé cette phrase, fils de l'homme, dans le livre de Matthieu, Marc et Jean. Peut-être prochainement, on est déjà à 20 heures, peut-être prochainement, on va parler de cette quatrième animal, parce qu'on va voir, il va parler spécialement de cette petite corne qui est venue. Et la petite corne, nous voyons, c'est une représentation d'Antichrist. Et cet Antichrist, si vous vous souvenez, il sera là, dans la fin des temps, au milieu de ce temps de la grande tribulation. Et on va expliquer cela la semaine prochaine, quand nous regardons cette Daniel 9 et les 70 semaines. Et cette dernière semaine, cette année, qui sera là dans l'avenir, au milieu duquel cet Antichrist apparaîtra. Voilà, je sais que c'était un peu vite, pardon, je suis un peu, j'ai pris un peu trop de temps, mais peut-être vous avez des questions à poser avant de partir ce soir.